Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être. Non, ce n'est pas une énième méthode de développement personnel, mais tout simplement une invitation à réconcilier vie spirituelle et bien-être. Prendre soin de soi, corps, cœur et âme, ce n'est pas négociable pour un chrétien à qui on a pu dire que la recherche du plaisir était inconvenante. Pour défaire cette idée reçue, nous sommes avec le frère Sylvain de Tocque, dominicain au couvent de Toulouse. Bonjour frère Sylvain.
Bonjour Isabelle.
Merci pour votre venue à Radio Présence.
Et c'est moi qui vous remercie.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être » publié au CERF. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. En fait, ce livre, c'est un petit peu comme le volume 3 de la série que j'intitule dans ma tête « Les bons à rien ». Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 3 ans, en 2022, j'étais le prédicateur du pèlerinage du Rosaire et on m'avait demandé d'écrire un livre. Ce livre, ça a été la gloire des bons à rien. Il a eu certains succès. Vous savez, le livre de spiritualité, c'est une niche en France. Et quand un livre marche, eh bien, tout de suite, on en parle dans le monde catholique, etc. Donc, on m'a demandé de poursuivre sur la lancée. Les bons à rien, l'idée, c'était de se dire que Dieu nous aime comme nous sommes. C'est lui qui nous a fait. Il faut apprendre à nous réconcilier avec ce que nous sommes, avec notre histoire.
Et avec nos mauvais côtés aussi.
Avec nos mauvais côtés. Et puis, dans l'élan de cette première publication, j'ai écrit ensuite « Les lumières de la fête ». Déjà, brillent les lumières de la fête, parce que quand on se rend compte que Dieu nous aime tel que nous sommes, on a envie de le fêter, de le célébrer, de lui dire merci, de retrouver cette festivité chrétienne qu'on a un peu perdue, aller la chercher dans la Bible, chez les pères de l'Église, dans la vie spirituelle, les grands saints, la liturgie, etc. Et puis, je reviens cette année avec la suite. Cette impression qu'on a beaucoup de mal, on est assez bon à rien aussi dans l'art de mettre l'évangile en pratique quand il s'agit de faire du bien. On se dit, mais l'évangile, c'est faire du bien aux autres. Oui, très bien. Mais l'évangile, c'est aussi apprendre à se faire du bien à soi. Parce que si on ne se fait pas du bien à soi, il est difficile de faire du bien aux autres.
Et oui, c'est évident. C'est comme dans les avions, vous savez, on met d'abord le masque à oxygène sur soi avant
d'aider les autres. Exactement. Oui, d'ailleurs, c'est un exemple que j'utilise. Vous parlez du masque à oxygène qui tombe, là, en tout cas. On ne le voit tomber en général que dans la démonstration des procédures de sécurité, heureusement, parce que le jour où il tombe vraiment, c'est un petit peu mal engagé. Mais en fait, effectivement, les personnels navigants, quand ils commencent leur carrière, et puis tout au long de leur carrière, ils ont des exercices, ils apprennent à sauter dans les toboggans. Et on leur dit à chaque fois, mais si vous ne sauvez pas d'abord votre peau, vous ne pourrez pas sauver les gens. Si vous êtes mort, vous ne pourrez pas aider les autres. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de ça dans l'évangile quand Jésus nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » en reprenant tout simplement la prédication de ses prédécesseurs dans l'Ancien Testament. Donc, commencer par là, ce n'est pas un péché, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est pas narcissique, c'est d'abord mettre en pratique l'évangile.
Je pense qu'il faut quand même qu'on définisse cette notion de bien-être, parce que elle est galvaudée, on l'utilise vraiment à toutes les sauces, si je peux m'exprimer comme ça. Et vous dites que l'évangile est une bonne nouvelle qui nous fait du bien. En fait, c'est ça le bien-être ?
Oui, on peut partir de ça. Il faut se rappeler que l'évangile, étymologiquement, en grec, c'est la bonne nouvelle. Une nouvelle qui est bonne, qui fait du bien. Un petit peu comme vos émissions le matin à Radio
Merci.
Présence ou sur les chaînes de radio, de télévision catholique. On essaye de faire du bien au cœur des gens, de ramener la joie de croire, de vivre avec Dieu, de partager sa vie. Donc on peut faire tout simplement de l'évangile un point de départ. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui veut faire du bien à votre vie de la part de quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui vous aime. Souvent, on parle du salut. L'évangile, dit saint Paul, c'est l'évangile de votre salut. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce salut si ce salut, en fait, n'englobe pas la réalité concrète de notre vie terrestre. On ne peut pas imaginer simplement un salut très haut perché qui consisterait simplement à penser à l'au-delà de la mort ou à cultiver nos plus belles facultés spirituelles, là, tout en haut de la pyramide de notre être. Non, l'évangile nous parle de tout ce que nous sommes. Tout est bon dans l'homme et tout est à sauver, c'est-à-dire tout est à évangéliser.
Corps, cœur et esprit. Justement, Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Comment comprendre son bien-être à lui?
La différence entre Dieu et nous, c'est pas tellement que Dieu est immatériel et nous matériel, c'est que Dieu n'est pas créé. Et nous, nous sommes créés. Mais vous voyez, les anges, hier, on célébrait par exemple les archanges, Michel, Raphaël et Gabriel. Et puis, dans deux jours, on va célébrer les anges gardiens. Bon, dans la tradition de l'Église, les anges, ce sont de purs esprits. Des créatures étonnantes, merveilleuses, dont toute l'activité consiste à connaître et à aimer. Hein. Ils n'ont pas un corps à prendre en charge, ce qui n'est pas notre cas. Nous, nous sommes capables, comme eux, de connaître et d'aimer, mais en même temps, ces opérations de connaissance et d'amour, elles se font dans l'épaisseur d'un corps terrestre jusqu'à présent. Et donc, c'est avec cette réalité-là aussi qu'il faut se réconcilier. Donc, vous voyez, les anges, je vous parle d'eux, pas seulement à cause de l'actualité liturgique, mais parce que les anges, ce sont de purs esprits. Comme Dieu, en quelque sorte. Mais non, en fait, parce que les anges sont des créatures de Dieu.
Voilà, c'est ça.
Dieu n'est pas une créature. Dieu n'est pas créé. Donc, si Dieu nous a créés corps, âme, esprit, et pas pur esprit, c'est sans doute qu'il a de bonnes raisons et qu'il nous montre à travers Jésus ressuscité que notre avenir dans la gloire, c'est un avenir qui saisit toute notre réalité terrestre. Regardez la Vierge Marie dans son Assomption. Là, je pars tout à l'heure au pèlerinage du Rosaire, où on contemple Marie qui s'est montrée dans la beauté de son corps glorieux à Lourdes, à Bernadette. C'est un petit peu la même idée. Tout ce que nous avons été sur la terre est appelé à partager la gloire de Dieu au ciel, pas seulement notre âme. Donc, apprendre aussi à faire du bien à son corps, d'une certaine manière, je vais utiliser un gros mot, un mot technique, c'est une propédeutique à la vie du ciel, c'est-à-dire une préparation. Vous savez, on dit la propédeutique, c'est pour les séminaristes avant qu'ils entrent au séminaire.
Oui, c'est une étape de discernement.
Ils se préparent, ils se préparent tranquillement, ils discernent. Eh bien, la vie terrestre, en quelque sorte, c'est une propédeutique à la vie du royaume de Dieu. Et donc, on se prépare et petit à petit, on apprend ce langage du royaume. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre dans l'Évangile? À travers toutes les guérisons, par exemple, que Jésus opère, à travers les résurrections qu'il opère, il fait du bien au corps, Jésus, pas seulement aux âmes. On ne voit pas des âmes comme ça se promener toutes seules dans les rues, ni aujourd'hui, ni dans l'Évangile. Hein. L'Évangile, ça passe par le corps.
L'Évangile, ça passe par le corps. En quoi la foi chrétienne se distingue-t-elle du développement personnel?
Alors, je pense que évidemment, le problème du développement personnel, hein, et c'est là que la notion de bien-être est piégée et qu'il faut qu'on la redéfinisse un petit peu. Hein. Le développement personnel, en soi, il n'y a rien de mal. Hein, mais ça peut très vite devenir profondément égoïste, narcissique. Hein, me développer, moi, au détriment un petit peu des autres et puis de ma relation avec les autres et avec Dieu. Le bien-être dont il est question dans l'évangile du bien-être, c'est le développement personnel en relation avec Dieu.
En vue d'être en relation et avec les autres aussi.
En vue de participer à la vie de Dieu et de laisser déborder en moi un petit peu comme les vasques d'une fontaine, vous voyez. Hein, je suis pas la source. La source, c'est Dieu. Encore un magnifique signe d'ailleurs de Lourdes. Hein. Pourquoi une source? Une source qui nous rappelle, comme dans la Bible, que tout vient de Dieu, tout jaillit de Dieu, de sa bonté, de sa générosité. Moi, je ne suis pas la source, mais Dieu m'a fait tel que je puisse recueillir dans mon cœur comme un débordement de cette bonté et ensuite la faire déborder à mon tour sur les autres. Donc, si moi, je ne fonctionne pas bien, si je ne vais pas bien dans mon corps ou dans mon psychisme, eh bien, cette vasque, elle est comme bouchée, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, on voit
déborder.
Ça dans les villes quand il y a des fontaines qui sont en panne. Hein, voilà, et si une vasque ne fonctionne pas, l'eau n'est pas communiquée. C'est un petit peu ça l'idée, hein, qu'il faut aussi prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres et ne pas cultiver un bien-être complètement clos, replié sur soi-même.
Sur soi-même, oui, c'est ça. Vous proposez, frère Sylvain Détoc, dans votre ouvrage, une progression. Et vous le disiez à l'instant, pour prendre soin de soi, il faut d'abord se connaître et s'aimer. C'est ce que vous appelez la visite de la clinique du bon Dieu qui permet ça. Assurer son bien-être, c'est aussi se libérer des fausses croyances. Et puis, prendre soin de soi, c'est aussi se reposer jusqu'au repos éternel de Dieu. On va commencer par cette clinique du bon Dieu. Vous l'appelez la maison du bien-être. De quelle maladie est-on soigné?
En fait, je me suis amusé à imaginer Jésus comme un bon toubib. Alors, En fait, je ne suis pas très original en faisant ça. Les pères de l'Église font ça depuis presque 20 siècles maintenant. La première trace de cet usage, c'est chez saint Ignace d'Antioche à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, juste après la génération des apôtres. Hein. C'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer ma démarche et ma pédagogie dans ces livres. Mmh. Hein, comme vous le savez, Isabelle, j'enseigne la théologie patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église, les successeurs des apôtres, les premiers théologiens dans l'Antiquité chrétienne. Ils sont de formidables pédagogues, mais on les connaît très peu.
Et d'ailleurs, vous leur faites honneur dans ce livre.
Alors, j'essaie de distiller dans ces livres, depuis les bons Ariens et jusqu'à ce bon plaisir de Dieu, j'essaie de distiller ce que je fais aussi avec mes étudiants dans une salle de cours ou à ma table de travail quand je prépare une conférence, une communication pour un colloque. Il y a des pépites chez les pères de l'Église. Et c'est dommage, les gens ne les connaissent pas. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de les mettre à la disposition des gens. Par exemple, Jésus, dans l'Évangile, il passe son temps à guérir, à faire du bien à des corps, et à toucher. Il y a du contact. Jésus, il passe par les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Même l'odorat, il y a plein de choses dans la Bible sur l'odorat. Donc j'essaye de montrer, voyez, les pères de l'Église avant moi ont déjà eu cette idée, Jésus, c'est d'abord le bon médecin. Alors j'imagine notre bon médecin, Doc Jésus en quelque sorte, qui dirige une clinique. Et dans cette clinique, il y a plein de services parce qu'on voit que Jésus, dans l'Évangile, il est capable de guérir à peu près tous les organes.
C'est l'ophtalmo, c'est l'ORL.
C'est l'ophtalmo, c'est l'ORL.
Le cardiologue aussi.
Et alors l'ophtalmo, c'est génial parce qu'on voit bien que les guérisons d'aveugles ont aussi une portée spirituelle. Qu'elle signifie qu'on souffre d'un aveuglement qui est bien plus terrible que celui de nos yeux de chair. C'est l'aveuglement du cœur. On souffre de surdité bien plus terrible que celle de nos oreilles. C'est la surdité du cœur quand, comme Israël, on refuse d'écouter la parole de Dieu, etc. Eh bien, toutes ces guérisons, tous ces organes, en fait, font signe vers une guérison beaucoup, beaucoup plus profonde, qui est la guérison de notre cœur. Et avec les mots grecs de l'Évangile, on peut jouer, par exemple, sur la sclérocardie. C'est-à-dire la sclérose du cœur. Vous connaissez la sclérose en plaques. La sclérose en grec, c'est l'endurcissement, le caillou, l'empierrement du cœur. Bien, on voit bien que Jésus est venu pour nous guérir de cette dureté du cœur qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Donc, j'essaye de partir d'abord de ce petit panorama très chouette où on voit que Jésus prend le temps de rencontrer chacun dans l'Évangile et de guérir des maladies très différentes les unes des autres, mais qui toutes, d'une manière ou d'une autre, nous montrent qu'en fait, il est venu pour guérir les profondeurs de notre être. Oui. Et c'est ça le bien-être dont on parle. L'être bien, c'est-à-dire libérer l'être, libérer les profondeurs de l'être humain jusque dans son corps pour qu'il puisse retrouver l'harmonie de la communion avec Dieu.
Prendre soin pour un chrétien, c'est surnaturel, écrivez-vous. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça, frère Sylvain de Tocque.
Et oui, parce que d'abord, prendre soin de soi, c'est naturel. Vous savez que même les animaux prennent soin d'eux-mêmes. Prendre soin de soi, en théologie morale, on dirait, ça nous rappelle nos navigants là tout à l'heure qui sautent dans les toboggans, prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est l'application tout simplement de la loi naturelle. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas ensuite aider les autres. Mais la Bible nous révèle, dès la première page, qu'il y a plus grand en l'homme. Que l'homme, comme disait Blaise Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, magnifique expression, qui nous dit que nous sommes faits pour bien plus grand que l'être humain. C'est saint Augustin qui commence aussi ses confessions en disant, voilà, Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, parce que nous ne sommes pas faits seulement pour les bonheurs de cette vie terrestre. Tous ces bonheurs-là sont sans doute très très beaux, très grands, mais ils sont le signe d'un bonheur bien plus grand auquel nous sommes appelés, c'est-à-dire vivre en communion avec Dieu, et ça commence dès maintenant.
C'est cette propédeutique dont vous parliez tout à l'heure.
C'est exactement ça, cette propédeutique de la vie du ciel. Donc, on essaye de s'ouvrir dès maintenant à ce bonheur de la vie avec Dieu.
Et ce bonheur, ça passe aussi par des signes visibles, par exemple le sourire.
Le sourire, le visage, un beau regard. Mmh. Hein. Donc j'essaie de parcourir la Bible d'une façon parfois un petit peu décalée, un petit peu pourquoi pas insolente quand il le faut, un petit peu à la manière de l'insolence que montre Jésus quand il remet en place aussi les rabbins, les pharisiens, etc. Mais ouvrez la Bible, chers amis, ouvrez les pères de l'Église, ouvrez même saint Thomas d'Aquin, et vous verrez qu'on vous recommande de prendre soin de vous, y compris de vous parfumer, de vous laver. Hein, c'est Jésus qui dit, c'est quand vrai. Tu jeûnes, lave-toi et parfume-toi.
La tête.
Hein.
Oui.
Saint Thomas dit, mais si ça ne va pas, si tu es triste, saint Thomas d'Aquin, hein, eh bien, il faut prendre un bain, ça détend, ça délasse. Hein. Je raconte aussi l'anecdote dans ce livre, justement, je disais que la Bible nous révèle que nous sommes faits pour plus grand que Dieu, et c'est inscrit jusque sur nos traits, jusque sur notre visage. L'homme est fait, Genèse 1, 26, on peut apprendre ça par cœur, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque visage sur la terre reflète quelque chose de la beauté, de la grandeur de Dieu. Et donc, quand on prend soin de son visage, c'est pour ça que je dis que c'est surnaturel, on prend soin de ce reflet, de ce miroir de la présence de Dieu sur la terre. Est-ce que nous avons déjà réalisé, c'est quand même assez dingue quand on y pense, toute la Bible, quand on traverse l'Ancien Testament, interdit de représenter Dieu. C'est de l'idolâtrie. Hein. Mais pourquoi ? Parce que la réalité qui représente Dieu sur la terre, qui reflète Dieu sur la terre, c'est vous, c'est moi, c'est le visage de l'être humain. Et quand Dieu se fait homme, quand le Verbe de Dieu s'incarne en Jésus, eh bien c'est lui qui est l'image du Père par excellence, il vient reconfigurer cette image qu'est le visage humain et qui était blessé par le péché. En Jésus, on contemple ce que c'est qu'un visage humain complètement libéré, un corps humain complètement délivré de ce qui empêche ce bien-être, cet être bien de se déployer. Là, vous parliez du sourire, ça m'amuse parce que dans le livre, effectivement, il y a plusieurs anecdotes sur le sourire, mais il y en a une qui a frappé aussi les auditeurs qui m'ont suivi cet été dans les podcasts sur la bonne mine avec les frères dominicains du couvent de Lille, hein, dans les questions de survie, où je dis, bah oui, effectivement, j'ai connu cette histoire dans un couvent où un jeune frère ne souriait jamais. Or, notre sourire, évidemment, est l'expression de la bonté de Dieu, tout simplement, pour ce monde. Hein. On dit dans un psaume que Jésus, enfin, le Messie, est le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur ses lèvres. Et évidemment, la tradition chrétienne applique ce verset à Jésus par excellence. C'est lui le plus beau des enfants des hommes. Hein. Bien, quand on ne sourit pas, quand on fait la tête, quand on est fermé, on a sans doute bien des raisons pas sourire.
Ce n'est
pas une condamnation. Il ne s'agit pas de faire la morale aux gens. Mais c'est un peu dommage. Hein. Et donc, ce frère ne souriait jamais. Alors, c'était un petit peu embarrassant parce que dans la vie dominicaine, on est amené à intervenir devant des publics, à parler beaucoup.
Il y a une force de témoignage quand même.
Une force du témoignage. On porte un habit tout blanc, assez et ça passe pas inaperçu,
ah oui,
si
c'est
vous
lumineux.
Voulez.
Hein.
Et puis, si donc vous avez une mine de carême, une mine d'enterrement, c'est quand même pas évident. Alors, ce frère, en fait, il ne souriait pas parce qu'il avait un problème de dents.
Ah oui.
Il avait, le pauvre, effectivement, des incisives qui n'étaient pas très photogéniques et donc il ne voulait pas être pris en photo, il n'osait pas montrer ses dents, il n'osait pas sourire. Et ça, c'est la sagesse dominicaine. Ça va peut-être étonner nos auditeurs qui vont trouver ça sans doute un peu superficiel, mais on aura
l'occasion. Allez chez le dentiste.
Oui, allez chez le dentiste et prenez soin de vous. Hein. Ben, ce frère, un supérieur, lui a dit, mais tu sais, c'est dommage parce que tu vas parler toute ta vie à des gens, à des centaines, des milliers de gens, de l'amour de Dieu pour eux, de Jésus, de son évangile qui rayonne pour eux. Si tu souris jamais, si tu donnes l'impression de faire toujours la tête, ça passera pas.
Oui, ce sera pas un bon
signe. Et donc, tout simplement, on a trouvé les moyens de faire en sorte qu'il puisse se soigner et puis qu'il puisse recouvrer petit à petit un beau sourire. Et ce frère aujourd'hui, c'est un prêtre, je le connais, il a un certain âge déjà, et il croque la vie apostolique à belles dents.
Et il sourit, voilà, et c'est un beau témoignage. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, c'est ce que dit Dieu à Israël. Et on n'imagine pas souvent que cette déclaration concerne aussi notre corps.
Tout a du prix en nous, aux yeux de Dieu. On le disait tout à l'heure, c'est lui qui nous a créés. Personne ne l'a forcé à nous créer être aussi matériel. Nous sommes des êtres matériels, homogènes à ce monde matériel sur la terre. Ce monde, la Bible nous dit, c'est le premier chapitre de toute la Bible. Il a un refrain merveilleux. C'est un poème, ce premier chapitre sur la création, celui qu'on reprend tous les ans à la fête de Pâques, dans la vigile pascale.
Oui, de la Genèse.
C'est un refrain. Et Dieu vit que cela était bon. C'est Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu a créé dans la matière terrestre est bon. Et quand il en arrive à l'être humain, qui est un peu la perle de la couronne, à la fin du processus de la création, de la semaine de la création, hein, Dieu vit que cela était bon. Il vit que cela était très bon. Donc, il n'y a pas un gramme de notre être qui soit mauvais. Les gens imaginent souvent que notre péché, il se loge dans la consistance de notre chair. Et Jésus nous dit dans l'évangile que ce n'est pas du tout le cas. La source de notre péché, elle est spirituelle. C'est dans les profondeurs de notre cœur que se décident les actes qui nous mettent en communion ou pas avec Dieu. Après, notre chair, eh ben, elle est la caisse de résonance de ces actes spirituels. Oui. Mais ce n'est pas d'abord dans notre chair, dans la consistance matérielle de notre corps, dans son épaisseur, que les péchés prennent leur source. Hein, ça, c'est extrêmement important. Il y a derrière cette conception du péché une très mauvaise métaphysique, pour employer un autre gros mot qu'on aime bien dans les salles de cours en théologie, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un être humain.
Oui.
Un être humain, c'est un animal merveilleux sous un certain angle, un animal très évolué, mais pas seulement, c'est plus encore. C'est quelqu'un qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pour participer à la vie de Dieu, pour partager la vie éternelle et bienheureuse de la Sainte Trinité. Et donc, ça, c'est une fois qu'on a compris ça, c'est extraordinaire, parce que partager la vie de Dieu, c'est la partager aussi dans notre corps, avec notre corps.
Et c'est effectivement tout ce que vous écrivez et vous développez dans cet ouvrage « Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être ». Je vous propose de marquer une pause pour reprendre un peu votre souffle. Nous écoutons « Car éternel est son amour », composé par le frère André Gouze.
Éternel est son amour, car 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 éternel est son amour,
Vivante Église, Isabelle Duché.
Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être. Nous sommes avec l'auteur de ce livre, le frère Sylvain de Toc. La deuxième partie de votre livre, s'intitule « Détoxifier la foi ». Vous souhaitez défaire des idées reçues sur la foi et l'une d'elles, c'est que prendre soin de son corps nous détournerait de Dieu et à trop se regarder, on ne le regarderait plus. Et inversement, à trop prendre soin de soi, on pourrait finalement oublier Dieu et les autres et devenir égoïste. Quel juste équilibre trouver ?
Je crois qu'en fait, dans le christianisme, il y a beaucoup d'idées folles qui continuent de circuler dans cette partie du livre. Alors évidemment, j'ai joué un peu sur les mots. Sylvain de Toc, il détoxifie la foi, comme m'avait dit une personne à qui je présentais un livre il y a quelques années. Hein, donc détoxifier la foi dans les cliniques ou sur Internet, on essaye de détoxifier le foie. Moi, j'essaye de détoxifier la foi, c'est-à-dire je vais chercher dans la Bible, chez les pères de l'Église, chez des grands théologiens, comme pour un dominicain, évidemment saint Thomas, mais il y en a d'autres encore. Il nous faut des clés, il nous faut des remèdes pour essayer de nous libérer de ces cancers de la foi que sont les fausses croyances. On a beau lire l'Écriture, l'entendre à l'Église tous les dimanches, parfois tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, parce que même, on va le voir dans les communautés religieuses, il y a ces fausses croyances qui circulent. Hein. Ça prend du temps de les guérir. Alors j'utilise ce langage un petit peu choc. Hein. Nos auditeurs sont prévenus. il y a comme des cancers de la foi qui métastasent dans tout notre organisme. Hein. Et ces métastases, en particulier, dans l'Antiquité, il y avait les hérésies. Et puis, ça fait toujours des ricochets, ça continue de se diffuser. On a eu le cas, par exemple, avec une version très sombre du christianisme, notamment au XVIIe siècle, le jansénisme les catholiques, le calvinisme du côté protestant, des doctrines effroyables qui imaginent que Dieu nous a façonnés pour nous faire souffrir, pour nous faire mal, pour éventuellement nous perdre, nous conduire en enfer. Certains sont même allés jusqu'à enseigner ce genre de choses. Mais ce n'est pas ce qu'on lit dans l'Évangile, chers amis, et ce n'est surtout pas ce que l'Église catholique enseigne. Hein ? Le catéchisme de l'Église catholique, sur ce point, il est très clair. Dieu nous a façonnés pour que nous partagions sa vie. Alors, ce n'est pas automatique. Ça ne veut pas dire que ça se fait aisément.
Ça demande une adhésion.
Ça demande une adhésion, ça demande un ajustement du cœur. C'est ça la propédeutique qu'est notre vie terrestre. Et à la différence du développement personnel, on en parlait tout à l'heure, eh bien, cet ajustement de notre cœur, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est une grâce.
Le travail
de la
grâce.
C'est un don de Dieu. Et c'est là que saint Augustin est génial pour nous rappeler que tout est l'objet, le fruit, le résultat, l'effet de la bonté de Dieu en nous. Tout est gratuit de la part de Dieu. C'est l'ordre de la grâce. Hein. Grâce, c'est gratis. C'est gratuit. Hein. C'est pas d'abord nos efforts qui nous valent des récompenses, qui nous valent des mérites. C'est d'abord sa bonté à lui qui nous attire à lui et qui fructifie en nous. Alors une fois qu'on a compris ça, eh bien on a comme la toile de fond hein, de la vie chrétienne. On se détend. Hein, ça va beaucoup mieux, on se décontracte, on respire, il y a un côté un petit peu thalassothérapie dans cette approche hein, et que j'essaye aussi de cultiver dans le livre. Voilà, ça va beaucoup mieux de savoir que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu nous fait grâce et que nous ne sommes pas obligés de faire de notre vie chrétienne une sorte de sempiternel combat spirituel, de sempiternel sacrifice où le but ce serait au fond de finalement se sacrifier, de souffrir indéfiniment pour gagner son salut. Ce n'est pas ça, le christianisme.
Et vous utilisez dans votre ouvrage cet exemple de Mère Geneviève Gallois. Donc, c'était une religieuse. Elle a été artiste, peintre, hein, reconnue assez tardivement. Il lui a fallu du temps quand même pour oser exprimer ce qu'elle avait de riche en elle. Comment expliquez-vous cette pudeur mal ajustée qui la concerne, mais qui nous concerne tous aussi hein ?
Oui, j'aime vraiment beaucoup Mère Geneviève. Je l'ai découverte il y a à peine un an en travaillant sur les récits de nouveaux convertis. C'est un récit extraordinaire, Mère Geneviève Gallois, parce que sa conversion, donc elle vient d'un monde très anticlérical, et donc au début du XXe siècle, elle se convertit au christianisme et elle entre dans une communauté monastique qui était très connue à Paris à l'époque, les bénédictines de la rue Monsieur, dans le 7e arrondissement de Paris. Et en fait, c'est une grande artiste, simplement, elle va faire fausse route en imaginant que Dieu lui demande de se sacrifier.
De renoncer.
Donc, de détruire ce qu'elle est. Elle pense que ça va rendre gloire à Dieu, de détruire ses talents, de détruire ce qu'elle est, hein, de détruire ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire. Hein. Et donc, elle qui était une dessinatrice extraordinaire, elle faisait des caricatures très belles, très drôles, etc.
Très douée. Hein.
Extrêmement douée. Elle a été découverte assez tard, mais elle est reconnue pour ses talents, pour son coup de crayon assez incisif par ailleurs. Hein. Eh bien, elle décide qu'au moment où elle entre au monastère, qu'elle va tout laisser à la porte du monastère et qu'elle va vivre sa vie religieuse comme une sorte de perpétuel, de sempiternel sacrifice pour sauver les âmes, comme on disait à l'époque. Hein. Eh bien, ça, par exemple, c'est comme les métastases du jansénisme qui continuent de se diffuser ça et là dans nos communautés chrétiennes. Et puis, en fait, le Seigneur va lui montrer à travers une longue, longue pédagogie. Évidemment, elle est malheureuse, Mère Geneviève, vivre cela. Mmh. Elle est malheureuse,
elle est
rend
amputée,
les
fait.
Autres malheureuses, parce qu'elle s'ampute le cœur, elle ampute ses talents. Et alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que ça va mal se passer dans sa communauté religieuse. Pendant 20 ans, elle va être mise à l'écart, elle va être laissée sur la touche. Et puis, à un moment donné, le Seigneur va lui faire comprendre, grâce à la petite Thérèse en particulier, que la vie spirituelle, c'est pas ça. Que la vie spirituelle, l'évangile, c'est d'abord laisser Jésus libérer notre cœur, nous installer dans le bien-être de Dieu qui nous aime et qui nous appelle à nous épanouir en lui, à fructifier, à fleurir et à fructifier en lui pour ensuite être généreux, bien sûr, des dons que nous allons pouvoir communiquer, ces fleurs et ces fruits. C'est dans la vie de toute l'Église, le mystère de la communion des saints. On les partage, on n'est pas égoïste, mais encore faut-il que ces fleurs et ces fruits puissent venir au jour en nous. Et bien donc, Mère Geneviève, elle va comprendre ça. Et du coup, par aussi le jeu de la Providence, elle va être repérée par quelqu'un qui va lui demander de continuer à dessiner, à peindre. Elle va faire des vitraux. C'est vraiment extraordinaire.
Elle déploie sa créativité.
Elle va vivre une deuxième partie de vie religieuse avec une créativité et une joie, un bonheur extraordinaire. Et je trouve que c'est un exemple vraiment stimulant pour nos auditeurs. Il y a quelques pages dans mon livre qui lui sont consacrées, une bonne dizaine, pour comprendre comment on peut faire fausse route dans la vie chrétienne. Et longtemps, et même dans les monastères les plus cotés, si vous voulez, parce que la rue Monsieur, à l'époque, chez les écrivains chrétiens de la fin du 19e...
C'était la référence.
Mais c'était la référence absolue pour la qualité de la liturgie, la beauté du chant grégorien, la rigueur de la vie spirituelle. Et on voit comment même ces lieux-là ne sont pas à l'abri de ces fausses routes dans la foi. Alors j'aime vraiment beaucoup l'exemple de Mère Geneviève pour montrer comment Jésus peut rejoindre des personnes qui se sont entêtées dans une caricature de l'Évangile, hein, et qui, grâce à d'autres amis de Dieu, comme la petite Thérèse, comme ce collectionneur d'art, vont pouvoir se libérer et entrer dans ce qu'on appelle, dans la vie spirituelle, une deuxième conversion, une nouvelle conversion qui libère profondément le cœur.
Alors, il y a une autre idée reçue dans votre livre, une autre métastase, comme vous l'appelez, c'est la nudité et tout ce qui s'y rapporte, qui, pour nous, est honteuse. Et on se souvient bien d'Adam et Ève après la chute, qui se sont trouvés nus, ils en ont eu honte. Pourquoi a-t-on honte de cette nudité?
Je crois qu'il y a quelque chose de profond en l'être humain d'un point de vue anthropologique. La pudeur, c'est une bonne chose. Elle nous protège du regard des autres quand ce regard est mal posé, mal ajusté. Voilà. Mais cette pudeur, elle est liée à notre situation aujourd'hui terrestre, qui, ne soyons pas naïfs, est aussi une situation liée à toute une histoire de souffrance et de péché derrière nous, qui a des siècles, des millénaires. Hein. C'est le mystère du péché aussi originel. C'est pas banal quand même que la manière dont la Bible nous parle de cette rupture de communion avec Dieu, c'est une rupture qui nous a amené à passer d'un état où nous étions heureux avec Dieu dans la nudité et heureux les uns devant les autres de cette manière à un état où nous avons honte, où nous avons peur, où nous nous cachons. Et donc l'Évangile nous montre que Dieu, qui est notre créateur, qui nous a façonnés, il sait ce que nous sommes, mais alors, je dirais jusqu'au bout des ongles, hein, pour employer
au
une image
plus profond de nos entrailles.
Que nos auditeurs ce matin peuvent entendre. Il nous connaît jusqu'au fond de notre être, au fond de nos entrailles. La Bible en parle à tout bout de champ de nos entrailles, hein, y compris dans ce qu'elles ont de moins ragoûtant. Mm. Hein. Et donc, il n'y a pas de honte à avoir devant Dieu. Alors, on parlait de Mère Geneviève. Mère Geneviève, eh ben, elle a mis en pratique, je ne sais pas si elle le savait elle-même, mais dans ses lettres, on trouve des images assez inattendues sous la plume d'une bénédictine. Hein. Elle dit ben, le bonheur de la prière, de la vie spirituelle, quand on a retrouvé la joie de vivre en Dieu, elle dit c'est comme clapoter dans son bain. Hein. Clapoter dans son bain. Enfin, quand même, chers amis, ce n'est ouais. pas une image à laquelle on penserait pour définir ce que c'est que la vie d'une moniale, la vie d'oraison. Hein, ben c'est un petit peu la même idée. Tout à l'heure, je disais Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, dit « Quand vous n'allez pas bien, prenez un bain, oui, ça ira ça. Mieux après, oui. détendez-vous. Hein. » Eh bien, la prière, la vie spirituelle, les sacrements, le baptême, chers amis, c'est une immersion, une c'est plongée. Pas pour rien. Mmh. À Lourdes, on immerge les gens dans l'eau de la source, c'est pas pour rien. C'est quand même pour nous rappeler que notre vie chrétienne, c'est une immersion en Dieu. Et donc, pourquoi pas aussi une détente. Il y a un petit côté thalassothérapie, balnéo, piscine, chauffée et bien agréable. Pourquoi pas ?
Oui. Et puisque vous parlez de détente, votre troisième partie est consacrée au repos, entrer dans le repos de Dieu. Alors, vous avez toute une partie sur des conseils de bon sens hein, pour une bonne qualité de sommeil. Et puis, après, vous développez en disant que finalement, on peut s'endormir en Dieu.
Oui, alors c'est même l'idéal. De la vie religieuse, donc comme je suis un religieux, que j'habite dans un couvent, avec un cloître, avec des offices, avec un emploi du temps qui est un petit peu différent de ce que vivent la plupart de nos contemporains, hein, bien j'aime rappeler que la nuit dans un couvent, dans un monastère, c'est un moment béni, c'est un moment qu'on prépare. Hein. Même si les dominicains ont une vie un petit peu à 100 à l'heure, parce qu'on prêche beaucoup, on voyage, on se déplace, on va annoncer l'évangile, ça et là, mais normalement, au couvent, après l'office du soir qu'on appelle les complis, c'est le grand silence. Et on essaye de respecter ce calme, ce silence, pour que chacun puisse prier, se reposer, lire tranquillement, jusqu'à l'office du lendemain matin, le premier office du matin. Chez nous, ce sont les laudes. Hein. On essaye de ne pas parler, de ne pas faire de bruit entre l'office du soir et l'office du matin. Hein. Et au cours de l'office du soir, les complis, eh bien, précisément, on prie avec des psaumes, avec des lectures qui nous invitent à entrer dans le repos de Dieu, à nous reposer en lui. Et voyez, par exemple, Jésus, dans certaines paraboles agricoles, hein, il nous explique que les agriculteurs, les cultivateurs, une fois qu'ils ont semé la semence, ils s'en occupent plus.
Ils attendent qu'elle pousse.
Ils se reposent. Mmh. Hein. C'est pas à eux de faire pousser les graines. Ça, c'est le mystère de la vie, de l'énergie, de la vie incroyable que le Créateur a déposé en chacune de ces semences. Hein. Donc, comme dit Jésus, mais que tu dormes ou que tu veilles, ça changera pas la croissance.
Dieu est là.
Hein. Donc, c'est un encouragement à arrêter de nous faire du souci et à nous reposer en lui.
Pour terminer, frère Sylvain de Toc, pourquoi employez-vous ce terme un peu désuet, hein, de bon plaisir de Dieu ?
Alors, le bon plaisir, c'est vrai que c'est une expression qui a un côté un peu vieille France. Oui. Hein, ça rappelle les caprices des rois autrefois. Mm-hmm. Ils signaient leurs actes juridiques en disant c'est le bon plaisir du roi, etc.
Exactement.
En fait, l'expression, avant de devenir ce qu'elle est devenue, est assez savoureuse, assez charmante. Hein. C'est une manière d'expliquer que dans la Bible, Dieu prend plaisir à nous voir nous épanouir, nous déployer et participer à sa vie divine. En fait, nos auditeurs l'imaginent peut-être pas, mais derrière ce bon plaisir, cette bonne volonté, cette bienveillance profonde de Dieu, hein, le bon vouloir de Dieu, si vous préférez, il y a un petit mot grec, hein, eudokia, qu'on retrouve par exemple dans le Gloria, le gloire à Dieu qu'on chante le dimanche à la messe. Malheureusement, ça a été traduit de différentes manières au fil des siècles et on a un petit peu perdu de vue tout ça. En fait, le texte de l'évangile dit que les anges à Noël, à Bethléem, ils disent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes sur la terre, paix aux hommes objet de son bon plaisir, objet du bon plaisir de Dieu. Dieu se réjouit en nous, il se plaît en nous. Et il ne se plaît pas en nous à nous voir nous détruire ou nous étioler comme des plantes chétives. Non, son bon plaisir, c'est de nous voir fructifier, nous déployer. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, et c'est pour ça que ce livre a pris ce titre, hein, l'évangile du bien-être, cette bonne nouvelle qui nous invite à déployer tout ce que nous sommes en communion avec Dieu pour le service aussi du prochain, de l'Église, du monde entier, eh bien c'est le bon plaisir de Dieu, ça lui plaît, ça lui fait plaisir, il ne faut pas en avoir peur.
Voilà, il ne faut pas en avoir peur. Merci beaucoup, frère Sylvain de Tocque. Je rappelle le titre de votre livre, « Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être » aux éditions du Cerf. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.